Shalom, aujourd'hui nous allons parler de l'idolâtrie, le premier des commandements noachides, le premier des sept lois, la première des sept lois des fils de Noé. L'interdiction de l'idolâtrie, on pourrait dire, a été le tout premier message d'Israël dans l'histoire. Ça a commencé par notre patriarche Abraham, qui a été le premier à lutter contre l'idolâtrie dans ce qu'elle avait de plus grossier, c'est-à-dire le culte des idoles. Et depuis, avec le progrès inspiré par la loi de Moïse et par la suite les développements de l'histoire, nous avons réussi, nous autres les Juifs, à diffuser l'enseignement de l'unité du Créateur et donc du refus de l'idolâtrie dans l'ensemble de l'humanité. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est une chose quasi admise dans la plus grande majorité du monde que s'il y a un Dieu, eh bien il n'y en a qu'un seul. Et c'est à lui seulement que les prières, que le culte doit être adressé. Alors évidemment, il y a énormément de subtilité dans ce commandement, parce qu'effectivement, on peut parfois être tenté de se dire « oui, je ne divinise pas tel être, telle personne, tel homme, mais je considère cette personne comme fascinante, une personne à laquelle je peux adresser des prières éventuellement. » Là également, il y a risque d'idolâtrie. Dans la législation de nos maîtres, et on a souvent discuté de savoir est-ce que les nations ont le devoir d'adresser un culte exclusivement au Créateur du monde, ou bien est-ce que l'association d'une autre personne, d'un autre être, ce qu'on appelle le chitouf, ferait partie des interdictions de l'idolâtrie ou pas? Il est évident que pour les Hébreux, pour le peuple prêtre, le peuple d'Israël, cette idée d'associer quelqu'un d'autre au culte de Dieu est, disons, totalement inadmissible. Mais est-ce que pour les nations, cela serait possible? Il y a souvent, chez nos maîtres, si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, ce qu'on appelle une sorte de tolérance. Cette tolérance envers les nations fait que ce n'est pas toujours une obligation pour nous autres, les Juifs, d'enseigner aux nations, dès le départ, le monothéisme intégral et absolu. On peut parfois entretenir un dialogue de type noachide et de type moral, même si cette exclusivité du Créateur n'est pas totalement intégrée, comme par exemple dans le christianisme. Et il y a une raison très profonde à cela. C'est que si on voit les textes bibliques, on se rend compte que, disons, le courroux divin envers l'idolâtrie n'a été appliqué qu'en terre d'Israël. C'est que dans la terre d'Israël que le Créateur exige de manière totale et absolue d'être exclusivement adoré. C'est ce qu'on appelle le Dieu jaloux de l'Écriture. Tandis que dans les nations environnantes du peuple hébreu, les prophètes ont toujours évité de se prononcer. Non pas que pour les prophètes, qu'à Dieu ne plaise, les autres dieux auraient une valeur, mais étant donné qu'il y a une sorte de priorité dans les dégâts réparés dans l'humanité, alors le problème de l'idolâtrie, en tout cas de la participation d'un être autre que le Créateur au culte, a été repoussé, ce débat a été repoussé pour plus tard. Il est évident que si on veut parler d'un authentique noachisme, cela exclut également toute prière adressée à quelqu'un qui ne serait pas le Créateur du monde. Mais pour le départ, on peut dire que on part au plus pressé. Le plus pressé, c'est de refuser l'idolâtrie dans ce cas-là de plus grossier, de refuser l'homicide et la débauche, et puis après viendra la limpidité de la connaissance du Créateur. On voit également, par exemple, chez un des grands personnages de la Bible, je parle ici de Yitro ou Jétro, comme on dit en français, qui lui a dit, maintenant, après avoir rencontré Moïse, il dit, maintenant, je reconnais que Dieu est le plus grand de tous les dieux. Yadati ki gadol Hashem mikol Elohim, je sais que Dieu est le plus grand à partir de tous les dieux. On pourrait dire que la conception qu'avait Jétro au début de son cheminement était une sorte de conception panthéiste qui incluait tous les cultes dans une sorte d'unité. Et puis c'est après avoir rencontré la Torah d'Israël que Jétro a compris également la transcendance du Créateur, l'absolue différence qui existe entre le Créateur du monde et son monde. C'est ça qui permet de se libérer des enchaînements physiques ou métaphysiques ou déterministes envers la nature. Ne reconnaître que le seul Dieu Créateur du monde comme celui à qui un culte doit être adressé, c'est ce qui permet de libérer l'homme de toutes ses entraves et de retrouver pleinement sa pleine stature humaine à l'image de Dieu. Shalom.